L'aiguille creuse, d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Lecture clé en français facile. Copyright, clé internationale 2019. Chapitre 1. Raymonde écoute. Elle entend un bruit. Elle se lève et regarde par la fenêtre. Elle entend à nouveau le même bruit. Il vient des salons, juste en dessous de sa chambre. Raymonde a peur. Elle va chercher sa cousine Suzanne dans la chambre d'à côté. Suzanne est réveillée. Elle est effrayée par les bruits. Raymonde chuchote. « Suzanne, c'est Raymonde. Tu dors ?»«
Non, je ne dors pas. Il est quelle heure ?» demande Suzanne.
« 4 heures. »«
Tu entends ? Il y a quelqu'un dans le salon. »«
N'aie pas peur, Suzanne. Ton père est en bas. »«
Il dort à côté. » Il est peut-être en danger.
Il y a aussi Monsieur Daval.
Sa chambre est trop loin. Il ne peut pas entendre les bruits.
Suzanne regarde par la fenêtre et voit quelqu'un dehors. Regarde, Raymonde. Il y a un homme, là, dans le jardin. Un homme marche rapidement avec sous le bras un objet grand et lourd. Il passe près de l'ancienne chapelle, puis il va vers une petite porte et disparaît. Raymonde et Suzanne se penchent par la fenêtre et elles découvrent une échelle posée contre le mur du château. Un autre homme est en train de descendre à l'échelle. Lui aussi, il a un paquet sous le bras. Lui aussi, il disparaît par la petite porte. Soudain, les deux jeunes filles entendent en dessous d'elles le bruit d'une bagarre, des meubles déplacés, des voix, puis un cri terrible. Raymonde et Suzanne descendent l'escalier vers le salon, mais elles s'arrêtent tout à coup. Elles sont devant un homme qu'elles ne connaissent pas. L'homme les regarde longuement. Puis, avec beaucoup de calme, il prend sa casquette, range les choses autour de lui, s'approche du balcon, salue les jeunes filles et disparaît. Suzanne court vers la chambre de son père. Elle ouvre la porte et découvre deux corps par terre. Suzanne est affolée. Elle se penche vers son père.
« Père, père, qu'est-ce que tu as ?»
Le comte de Gesvres répond avec une voix faible.
« Ne t'inquiète pas, ça va. Et Daval, il est vivant ? Le couteau ?»
Raymonde se précipite vers l'autre corps. C'est Jean Daval, l'homme de confiance du comte. Son visage est blanc. Il est mort. Raymonde a toujours été plus courageuse que sa cousine. Elle se relève, elle prend un fusil dans le salon et va sur le balcon. Elle voit un troisième homme tout près de l'ancien monastère. Elle vise et tire un coup de feu. L'homme tombe.
« Il est mort !»
s'exclame l'un des domestiques.
« Non, il est encore vivant. Il se relève. Victor, prenez l'escalier et allez jusqu'à la petite porte. Il ne doit pas s'enfuir !»
Victor se dépêche. L'homme blessé se lève à nouveau, puis retombe. Raymonde demande à l'autre domestique.
« Albert, regardez, il est là-bas !» Près de l'arcade.
Oui, je le vois.
Surveillez-le pendant que Victor garde la porte, dit-elle.
Puis elle reprend son fusil et sort du château. Elle se dirige vers les ruines du monastère. Raymonde fait le tour du monastère à la recherche du blessé. Albert s'inquiète. Il ne la voit plus. Il part à sa recherche. Près de l'arcade, il retrouve Raymonde et Victor.
Où est-il ? Demande Albert.
« Il a disparu, » répond Victor.
« Par la petite porte ?»«
Non, c'est impossible. J'ai la clé avec moi. »«
Oh, il est blessé. Il ne peut pas aller loin. Il est bientôt à nous. »
Raymonde et les domestiques cherchent l'homme. Ils regardent derrière chaque arbre, derrière chaque colonne. Ils vérifient que la chapelle est fermée et que les fenêtres ne sont pas cassées. Il cherche dans toutes les ruines d'Embrumésie, c'est-à-dire autour de la chapelle et près du monastère. Il ne trouve rien, ou presque. Une casquette en cuir jaune. Où est passé l'homme? À 6 heures du matin, la gendarmerie d'Ouville-la-Rivière arrive au château. Avant, elle a envoyé un message au parquet de Dieppe au sujet du meurtre. Elle a indiqué les premiers indices. La découverte de la casquette et du couteau. La gendarmerie a aussi annoncé que l'arrestation du principal coupable sera rapide. À 10h, le juge, M. Filleul et ses collègues, accompagnés de deux journalistes, arrivent au château. Le vieux château appartient au comte de Gesvres. Il y vit avec sa fille Suzanne et avec sa nièce Raymonde de Saint-Véran. Raymonde vit chez son oncle depuis la mort de ses parents 2 ans auparavant. Le comte est un homme de grande taille, avec un beau visage sérieux et des cheveux gris. Il est très riche. Il s'occupe de ses propriétés avec son homme de confiance, Jean Daval. Lorsque le juge Filleul arrive, le brigadier de gendarmerie, Quevillon, lui rapporte les premiers événements. On n'a pas encore arrêté le coupable, mais toutes les sorties sont surveillées. Il ne peut pas s'enfuir. Le juge, ses collègues et le brigadier montent au premier étage du château. Tout est en ordre. Les objets semblent tous à leur place. Les magnifiques tapisseries flamandes sont accrochées au mur de chaque côté. Au fond, il y a 4 tableaux de Rubens. Le juge note « S'il y a eu vol, ce n'est pas dans ce salon. »« Pourquoi pas ?» répond son collègue. « C'est simple. Le voleur n'a pas pu transporter ses tapisseries et ses tableaux. Ou il n'a pas eu le temps. » Le juge demande alors au comte de Gesvres de raconter les événements de la veille. Le comte de Gesvres explique « Jean Daval m'a réveillé. Il est arrivé dans ma chambre avec une bougie à la main. » Il portait encore ses vêtements de tous les jours car il travaille souvent très tard. Il semblait inquiet. Il m'a dit à voix basse « Il y a du bruit dans le salon ». C'était exact. Je suis donc allé ouvrir la porte. C'est alors qu'un homme est arrivé par cette autre porte. Il m'a sauté dessus. Tout s'est passé très vite. Et j'ai reçu un coup de poing au visage. Ensuite, je ne me souviens de rien. Je me suis réveillé. Et Daval était allongé à côté de moi. Il était mort. Le juge interroge le comte sur son entourage, mais le comte dit qu'il n'a pas d'ennemis et que Daval non plus. Le comte de Gesvres ne comprend pas les raisons du meurtre, car, selon lui, il n'y a pas eu vol. Rien ne manque dans le château. Le juge s'adresse maintenant aux deux cousines. Suzanne est pâle et elle a du mal à parler. Raymonde est plus déterminée. Elle est aussi plus belle avec ses yeux bruns. Aidée par Albert et Victor, elle raconte les événements. Le juge demande à Albert « Donc, d'après vous, le troisième homme n'a pas pu partir par la gauche parce que Victor surveillait la porte. Et il n'est pas parti par la droite puisque vous ne l'avez pas vu traverser le jardin. Il est donc toujours ici sous nos yeux. J'en suis certain. Vous aussi, mademoiselle ?»
Oui.
Et moi aussi, dit Victor. L'affaire s'annonce difficile. On n'a rien volé et on ne trouve pas le coupable. Après le déjeuner, on trouve un papier avec cette phrase écrite à la main. Malheur à la fille si elle a tué le chef. Le juge rassure le comte et les jeunes filles. Il demande aux journalistes d'être discrets. Il s'approche de l'un d'entre eux. Il souhaite voir sa carte de journaliste. Celui-ci n'en a pas, mais il répond avec beaucoup de politesse. Il est jeune, très grand et très mince. Il porte un pantalon trop court et une veste trop petite. Il a un visage de jeune fille, des cheveux courts, une barbe mal coupée et un regard intelligent. Le juge le regarde droit dans les yeux et l'interroge sur un ton sévère. « Votre nom ?»«
Isidore Beautrelet. »
« Votre profession ?»«
Élève au lycée Janson de Sailly. »«
Pardon ?»«
Élève ?»« Élève au lycée Janson, rue de la Pompe, numéro... »«
Arrêtez de plaisanter ! Soyez sérieux !» s'impatiente le juge.
« Vous ne me croyez pas ? Ah, c'est à cause de ma barbe. »«
Regardez, elle est fausse. » Et d'un geste, il enlève sa barbe. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demande M. Filleul sur un ton dur. «
Mais... »
J'apprends. Ce n'est pas ici, mais c'est au lycée que vous devez apprendre.
Nous sommes le 23 avril, monsieur le juge.
C'est les vacances de Pâques. Et vous êtes content de votre voyage ?
Demande le juge, intrigué par le jeune homme.
Très. C'est une affaire passionnante. Comprendre les événements et découvrir petit à petit la vérité.
Hein ? Vous allez peut-être m'apprendre quelque chose, parce que moi, je ne sais rien.
Savez-vous ce qui a disparu dans ce salon ?
Je le sais.
Bravo ! Vous en savez plus que le comte lui-même.
Et le nom du meurtrier ?
Je le connais.
Le juge et ses collègues s'approchent. Monsieur de Gesvres et les deux jeunes filles écoutent le jeune Beautrelet avec attention, étonnés par le jeune homme.
« Vous connaissez le nom du meurtrier ?» demande à nouveau le juge.
« Oui. »«
Et vous savez où il se trouve ?»«
Je le sais. »
Soudain, Raymonde de Saint-Véran s'avance et affirme qu'elle a vu la veille Isidore Beautrelet se promener dans le château. Le juge décide de vérifier ses informations. Pour le moment, un brigadier surveille Isidore Beautrelet. En fin de journée, le juge repart à Dieppe. La nuit arrive. Suzanne et Raymonde, avec deux femmes du pays, veillent le corps de Jean Daval. Un garde reste à côté d'Isidore Beautrelet qui dort. Dehors, les gendarmes et une douzaine de paysans surveillent les ruines et les murs d'enceinte. À 11h10, on entend un coup de feu, puis un autre du côté de la ferme. Les brigadiers courent dans tous les sens et, soudain, ils découvrent la grange en feu. Tout le monde se précipite vers la grange. À 2h du matin, le feu est enfin éteint. Pendant ce temps, l'homme blessé a quitté le château et Isidore Beautrelet s'est échappé.